Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation.
Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat.
C'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, j'espère que vous allez bien. C'est Marianne Paquette, oui, de retour à ce micro. Bien contente de vous retrouver en ce mardi 8 septembre. Grand retour ici pour tous les animateurs de Canal M et pour cette émission de C'est bon pour la santé. Comme vous l'avez entendu, nouveau thème, mais toujours comme axe principal, la santé. On n'a pas changé de titre, donc pas changé notre sujet de prédilection. Toujours des sujets informatifs, des conseils pratico-pratiques et des invités qui seront, je l'espère, répondre à vos questions en matière de santé et vous inspirer également. Donc aujourd'hui, en deuxième partie d'émission, une discussion avec la nutritionniste que vous connaissez peut-être parce qu'elle a été des nôtres assez souvent la saison dernière, Stéphanie Côté d'Extenso, co-auteur de ce tout nouveau livre sur la nutrition qui s'intitule « Nutrition sportive, 21 jours de menu » publié chez Modus Vivendi, qui regorge de recettes plutôt amusantes, je dirais surprenantes, serait plutôt le bon terme, entre autres une galette de betterave, parce qu'il paraît que la betterave est un aliment assez intéressant lorsque l'on s'entraîne. Donc, des recettes savoureuses, nutritives, bien sûr, et aussi un livre qui regorge d'informations théoriques, de recommandations pratiques pour les sportifs de haut niveau, d'une part, mais aussi pour les gens qui ont un mode de vie sain. Et puis, d'abord, Dr Chantal Guimon, elle qui est urgentologue, chercheuse en médecine d'urgence pédiatrique. Elle travaille du côté du CHUL à Québec. C'est d'ailleurs là qu'on la joint. Elle nous présente sa toute nouvelle émission « Médecins sans rendez-vous » diffusée dès ce soir, 19h30, sur les ondes de Télé-Québec. Docteur Guimon, bonjour.
Oui, bonjour.
On est à quelques heures du nouveau magazine de santé « Médecins sans rendez-vous » que vous animez dès ce soir, 19h30, sur les ondes de Télé-Québec. Pour vous, c'est un petit retour, je dirais, à la télévision, parce que vous avez fait partie de l'équipe Les Docteurs. C'est important pour vous, en tant que médecin, d'être près du grand public?
Oui, effectivement, j'ai fait partie des docteurs pendant 3 ans. Ça a été une superbe expérience, mais quand l'expérience s'est terminée, je me suis tout de suite demandé qu'est-ce que je pourrais faire d'autre pour m'approcher du public et continuer à répondre à leurs questions, parce que les commentaires que je recevais lors de ces années-là de diffusion, c'était toujours qu'il manquait ce genre d'informations-là pour mieux outiller les gens, savoir qu'est-ce qui se passe dans leur corps et savoir quand consulter quand ils ont des petits soucis de santé.
Mm-hmm. Quelles sont les questions du grand public en matière de santé? Ce que vous entendez le plus souvent?
C'est très, très varié. Hein? Ça dépend de la strate d'âge, mais on entend plusieurs questions du genre « mon enfant fait continuellement des otites, est-ce qu'il y a moyen de prévenir? Quand la gastro rentre dans la maison, est-ce qu'il y a moyen de cesser ça au plus vite ou si tous les membres de la famille doivent y passer? À l'adolescence, l'acné, est-ce normal ou est-ce qu'on doit la traiter? » Donc, c'est très, très, très varié, mais je pense qu'avec une saison complète, là, on a 25 émissions, là, dont la première est ce soir, je pense que je vais avoir le temps de faire le tour d'une bonne partie des questions, et les gens vont me nourrir aussi de leurs questions, parce que moi, ce que j'entends, c'est peut-être seulement un sous-ensemble de ce que les gens ont comme questions. Et là, la diffusion, la page web, la page Facebook, c'est tous des endroits où les gens vont pouvoir me nourrir de questions et je vais leur répondre avec grand plaisir.
Une saison complète et aussi des collaborateurs qui seront là pour compléter l'information également.
Tout à fait. On a une nutritionniste qui va être là très souvent. On a une kinésiologue, on a une pharmacienne, donc on a plein de gens. On a des gens qui vont être là aussi de façon un peu plus occasionnelle, physiothérapeute, ergothérapeute. Donc, notre kinésiologue, c'est Karine Larose. La nutritionniste, c'est Geneviève Nadeau. On a une pharmacienne, Geneviève Nguyen. Et Jean Tifaut, qui est le président de l'Ordre des pharmaciens du Québec, qui collabore tous là à l'émission. Donc, on en est bien, bien contents. Et les collaborateurs occasionnels, physiothérapeute et ergothérapeute, ça va être Denis Fortier et Frédéric Loisel.
Oui, équipe assez solide, en effet, Chantal Guimon. Médecins sans rendez-vous, est-ce que ça peut être une façon aussi de pallier à cette société qui est plutôt dans le curatif que dans la prévention? Je pense que c'est important pour vous de mettre l'accent sur la prévention d'abord.
Oui, moi, mon souhait, là, c'est vraiment de transmettre toutes les notions qui vont permettre aux gens de demeurer en santé. Donc, ce que je me plais à dire, c'est que Médecins sans rendez-vous, c'est une émission de santé et non une émission de maladie. Donc, oui, on axe sur la prévention, sur comment reconnaître qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est anormal. Et dans ce qui est anormal, les petits soucis qu'on a au quotidien, ben, qu'est-ce qui demande vraiment un traitement spécifique et des heures, des fois, d'attente pour aller nous consulter par opposition à ce qui se traite avec des solutions maison et avec un peu de patience et du temps. Donc, ces choix-là, les gens ne peuvent des fois pas les faire parce qu'ils n'ont pas les outils. Moi, j'ai appris au cours des années par ma formation, par mon expérience, plusieurs trucs qui font en sorte que face à un souci de santé, je sais quoi faire. Ben, je souhaite transmettre le plus possible ces trucs-là aux gens qui vont m'écouter et qui vont écouter mes collaborateurs lors de cette émission-là.
Mm-hmm. Docteur Guimond, le web est très présent dans les familles québécoises. Est-ce que pour vous, c'est un plus ou ça amène plutôt de la désinformation?
Mais je pense que c'est une réalité. Avant tout, hein, il ne faut pas se demander si on doit y aller ou non. Je pense que les gens vont juste y aller de plus en plus sur le web. C'est une source d'information qui, moi, améliore grandement mes compétences. Hein. On a les dernières informations là, au moment même où ils sont publiés. Donc, c'est une réalité. Par contre, les gens, ils ne savent pas toujours où aller chercher leur information sur le web et il y a beaucoup de désinformation, effectivement. Donc, on a choisi, en parallèle à l'émission Médecins sans rendez-vous, de développer un site web qui va être complémentaire à ce qui va se passer à la télévision et qui va donner une information juste à jour et qui va aussi diriger parfois vers des sites qui sont fiables, parce qu'il y en a des sites qui sont fiables, malheureusement. Il y en a d'autres qui sont moins. Donc, quels sont les critères qui nous permettent de reconnaître un bon site? Ça aussi, ça va pouvoir être abordé. Et c'est très important de réaliser que les gens vont y aller sur le web. Il faut juste qu'ils aillent au bon endroit. Et je vous dirais que dans la pratique, c'est intéressant d'avoir des gens qui arrivent avec des petits soucis puis qui ont fait déjà leur démarche et qui nous confrontent dans nos explications et dans les traitements proposés. Pas confrontés de façon négative, mais confrontés de façon positive. On voit qu'ils s'intéressent à leur santé et ça, c'est très positif. Il faut juste arriver avec des réponses claires, nous aussi, de notre côté, et bien répondre aux fausses allégations qu'on voit sur le net et aussi être à jour pour être en concordance avec les vraies informations qu'on retrouve sur Internet.
Donc, ce que j'entends, c'est être près du public, mais en même temps, vous êtes bien ouverte à susciter le dialogue avec eux.
Ah, tout à fait, tout à fait. Moi, ce que j'aime, c'est l'interaction avec le public. Là, je pense que les gens sont en droit de connaître leur fonctionnement, connaître notre système de santé, connaître les gens qui vont les traiter s'ils ont à consulter. Donc, il faut qu'ils aient accès à quelqu'un du domaine. Et ce quelqu'un-là, ben, pour l'instant, ça va être moi lors de ces émissions-là. Et j'espère que plusieurs autres de mes collègues vont aussi avoir cette ouverture-là pour être plus finalement à répondre aux questions du public.
Médecins sans rendez-vous succède à une pilule, une petite granule. C'est important pour vous que la télévision québécoise conserve des plateformes qui parlent de santé.
Ah oui, c'est essentiel. J'ai l'impression que chacune des émissions, que ce soit une pilule, une petite granule ou les docteurs il y a quelques années ou bien d'autres avant, ont tous leur force. Toutes ces émissions-là ont toutes leurs forces. Il faut juste que les gens y trouvent leur compte. Donc, plus il y aura une offre diversifiée d'émissions qui vont parler santé, plus les gens vont y trouver les informations dont ils ont besoin. Donc, à mon avis, c'est essentiel et je remercie Télé-Québec d'avoir choisi de continuer à investir dans ce genre d'émissions-là là, pour faire suite à une pilule, une petite granule.
Et en terminant, en ce qui a trait au concept, on s'attend à une émission d'à peu près, une 30 minutes. On vous voit interagir avec vos collaborateurs. À quoi on peut s'attendre, là?
Ce qu'on a comme concept, là, c'est effectivement une émission de 30 minutes. Le squelette est à peu près toujours le même, c'est-à-dire qu'il y a deux entrevues un peu plus poussées que je vais faire avec des gens. Je réponds à leurs questions, je vais dans leur domicile, leur résidence pour personnes âgées, leur milieu de travail, peu importe, là, selon ce que la question suggère. Et il y a aussi des capsules. J'interagis pas avec mes collaborateurs. Mes collaborateurs ont leur propre capsule où ils informent le public. Donc, il y a différentes capsules, différents petits clins d'œil aussi, un aller-pause avec une question vraie ou faux, un saviez-vous que pour susciter des questionnements, un remettre les pendules à l'heure pour montrer aux gens comment que la science évolue, la santé évolue, les notions médicales au travers des années. Donc, plusieurs petites capsules aussi, clins d'œil pour répondre à des questions de façon beaucoup plus précise. Donc, c'est un squelette qui est à peu près toujours toujours le même sur 30 minutes et les gens vont passer au travers de ces 30 minutes-là en apprenant beaucoup, mais je pense pas qu'ils vont s'ennuyer.
Oui, et autant un mélange de conseils très pratiques, très concrets et de l'information peut-être un petit peu plus générale lorsque vous parlez de science notamment.
Exactement, mais je vais pas utiliser des termes médicaux et pousser dans des diagnostics précis, là, des mots de santé, des mots de maladie qui parfois font peur, là. Donc, effectivement, c'est des réponses concrètes, des quoi faire au quotidien et des capsules d'information qui vont pouvoir être applicables dès le lendemain, dès le soir même, j'en suis certaine.
Et pour tous les membres de la famille, comment les gens peuvent vous joindre, Dr Chantal Guimond, pour justement poser leurs questions en matière de santé?
L'idéal pour poser les questions en matière de santé, ça va être d'y aller via la page Facebook de Médecins sans rendez-vous, qui est accessible depuis quelques mois déjà. On a déjà plusieurs personnes qui suivent et qui nous suggèrent des questions. Via le téléphone aussi, en appelant Télé-Québec, il va y avoir sûrement un moyen de nous transmettre vos questions. La plateforme web ne sera pas une plateforme interactive où les gens vont poser leurs questions parce que ça mènerait trop à un risque de demande de diagnostic et c'est l'opposé de ce qu'on veut faire. Un diagnostic doit se faire en privé, entre deux personnes. Donc, puis lors de l'émission, on va transmettre les informations pour que les gens sachent où me rejoindre ou rejoindre mon équipe.
Donc, médecinssansrendez-vous.téléquébec.tv. Chantal Guimond, bonne chance pour ce soir. On vous écoute dès 19h30.
Merci, c'est très gentil et au plaisir.
Bye-bye.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevoix.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Stéphanie Côté, bonjour.
Bonjour, Marianne.
Un plaisir de vous retrouver pour cette deuxième saison de C'est bon pour la santé. Vous allez bien?
Oui, ça va très bien vous-même.
Ben, très bien. Et puis en plus, ben, on vous félicite pour ce deuxième livre, Nutrition sportive, 21 jours de menu. C'est publié chez Modus Vivendi, coécrit avec votre collègue Philippe Grand. Et Stéphanie, je veux souligner d'entrée de jeu, vous êtes nutritionniste, on le sait, du côté d'Extenso. Ce que j'ignorais, c'est que vous avez également une maîtrise en nutrition sportive. Ça a dû être assez utile pour la rédaction de ce livre.
Oui, tout à fait. La maîtrise en nutrition sportive qui est venue tout de suite après le bac pour un intérêt très, très grand envers la nutrition sportive, étant moi-même une sportive assez occupée. Et pour la rédaction, ça a été très utile de me servir de ça et de me replonger dans la nutrition sportive.
Utile parce que le livre, en plus de regorger de recettes, et je le disais d'entrée de jeu, qui ont l'air succulente, parfois surprenante également, je pense notamment à cette galette de betterave, fait part également d'informations un petit peu plus théoriques, plus informatives, mais le livre ne s'adresse pas qu'aux sportifs d'élite.
Non, pas du tout. Vraiment aux sportifs de tous les jours, ceux qui, s'entraînent pour, par exemple, faire un marathon, un demi-marathon, mais également pour les gens qui ont des cours de spinning une, deux, trois fois par semaine, de Zumba, d'aquaforme et autres. Il y en a vraiment pour les sportifs de tout type, parce que les bases sont les mêmes. Le carburant qu'on utilise pour faire du sport, la récupération quand on veut continuer à avoir de l'énergie entraînement après entraînement, donc l'hydratation aussi, tout ça est valable d'un sport et l'autre, et les conseils sont vraiment vulgarisés pour que tout le monde s'y retrouve.
La base est la même. Est-ce que les besoins nutritionnels, Stéphanie, ils vont varier selon le sport que l'on pratique?
Oui, absolument. Les besoins vont varier en fonction du sport, en fonction de l'intensité, en fonction de la durée de chaque entraînement ou du sport. Puis ça, c'est expliqué aussi dans le livre parce qu'un entraînement de faible intensité, mais qu'on fait pendant 2, 3, 4, 5 heures de temps, va nécessiter une alimentation un petit peu différente que des sports de courte durée très intense, par exemple. Donc ça c'est différent. Si les sports se pratiquent où il fait très chaud, par exemple, versus le froid en hiver, ça influence un petit peu les besoins alimentaires également. Donc il y a des conseils pour s'adapter en fonction de toutes ces conditions-là.
Donc on peut s'adapter selon le sport que l'on pratique, c'est-à-dire forte intensité, plus faible intensité. Est-ce qu'il faut calculer, Stéphanie, en termes du nombre de calories que l'on consomme?
Non. On pourrait le faire quand on rencontre une nutritionniste sportive en pratique privée. On y va plus dans le détail pour compter les calories. Si notre but est de contrôler le poids, par exemple, ou de prendre la masse musculaire, là, il faut parfois rentrer dans des calculs. Mais on ne voulait pas rentrer dans ces calculs-là dans notre livre Nutrition sportive parce que ça enlève une partie du plaisir et du côté naturel de l'alimentation. On privilégie l'alimentation où on mange en fonction de nos besoins, qu'on mange quand on a faim, qu'on arrête de manger quand on n'a plus faim. Et surtout, il y a quand même beaucoup d'informations, mais faciles à appliquer pour savoir comment composer notre assiette à chaque repas ou chaque collation en fonction du délai qu'on a, par exemple, avant de s'entraîner ou quelques jours avant un événement sportif. Donc, on n'est pas obligé de rentrer dans des pesées d'aliments, dans des calculs de calories. On ne voulait surtout pas entrer là-dedans parce que ça enlève le côté plaisant à l'alimentation.
Oui, et la notion de plaisir, elle est assez présente dans ce livre-là. D'ailleurs, il y a une panoplie de recettes, je dirais, qui pourraient convenir aux dents un petit peu plus sucrées. Je pense aux brownies dans une tasse, les jujubes, entre autres choses. Est-ce qu'il faut comprendre que les glucides, c'est assez important dans l'entraînement pour un sportif?
Les glucides sont le carburant principal du corps en tout temps, mais encore plus des sportifs parce que c'est le carburant qui est le plus rapidement disponible pour des muscles à l'effort. Donc oui, les glucides prennent la place dans l'alimentation du sportif, mais sans mettre de côté non plus les protéines, les matières grasses, parce que c'est un tout. Et en fait, ce que je tiens aussi à préciser, à mettre l'emphase sur, c'est que on parle de glucides, de protéines, de lipides un petit peu dans la théorie pour expliquer comment le corps utilise toutes ces sources d'énergie. Mais après ça, on parle en termes d'aliments parce que les gens mangent des aliments, ne mangent pas des glucides, des protéines, des lipides. Donc, on veut vraiment rendre ça en termes concrets, en termes pratiques pour que ça soit utilisable vraiment sans se casser la tête.
Donc, protéines, glucides, lipides, ce sont les aliments de base qui fournissent le plus d'énergie, c'est bien ça?
Ce sont les trois composants des aliments qui fournissent de l'énergie. Puis après ça, bien, on les retrouve dans tous les aliments, les fruits, les légumes, les pâtes, le pain, les produits laitiers, la viande, le poisson, le tofu, etc. Donc, c'est vraiment dans tous les aliments de base. Le sportif mange des aliments de base comme tout le monde, mais bien sûr, il y a des questions de quantité, de timing aussi qui sont importantes
à doser,
voilà, parce que c'est sûr qu'il y a des besoins particuliers à adresser dans le cas des sportifs. Mais sinon, l'assiette en tant que telle va être la même que le reste de la famille, par exemple, si tout le monde ne s'entraîne pas de la même façon.
Oui, et ça, c'est une question qui revient très souvent. Qu'est-ce que l'on doit manger avant de s'entraîner et combien de temps avant?
En fait, on peut manger avant un entraînement, peu importe l'entraînement, mais ce qu'on va choisir de manger va dépendre du délai qu'on a avant d'aller s'entraîner. On peut, par exemple, manger un tout petit peu avant d'aller s'entraîner le matin. Il y a des gens qui s'entraînent tout de suite en se levant avant d'aller travailler, mais on peut prendre, par exemple, un fruit, un verre de jus ou un petit, juste vraiment une toute petite collation légère, alors que si on va s'entraîner sur l'heure du midi ou en fin de journée après le travail, mais là, on va prendre une collation, par exemple, 2 heures avant d'aller s'entraîner. Et à ce moment-là, ça pourrait être une barre de maison, un muffin de maison et un fruit, un yogourt avec quelques noix. Donc ça, c'est des collations légères qui vont permettre d'avoir de l'énergie encore 2 heures plus tard, par exemple, au moment où on va vouloir s'entraîner, mais qui vont éviter qu'on se sente lourd et plein et qui vont plutôt nous enlever de l'énergie au moment où on va vouloir bouger.
Et après, ce que j'ai cru comprendre en feuilletant le livre, c'est que chaque sportif est différent. Il faut apprendre également à se connaître. Comme par exemple, vous mentionnez, certains sportifs tolèrent un petit peu moins bien la protéine avant de s'entraîner, donc il faut explorer.
Oui, il n'y a pas deux personnes pareilles. Il y a des gens qui digèrent mieux certains aliments que d'autres, des gens qui vont mieux carburer avec certains aliments que d'autres, qui sont plus sensibles au moment de s'entraîner aussi, qui ont plus, par exemple, des points facilement. Donc, il y a une base qui peut s'appliquer ou du moins de laquelle on peut partir, mais après ça, chaque personne doit apprendre à se connaître pour voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour elle. Ça, c'est important de le faire. Et comme on le précise aussi dans le livre, c'est important de jamais faire d'essais durant un événement pour lequel on s'est entraîné très longtemps.
Ou une compétition, par exemple.
C'est ça. On fait les essais en entraînement parce que une fois qu'on arrive en compétition ou à un marathon, par exemple, là, on veut que tout soit bien rodé, on veut savoir où on s'en va et que ça va fonctionner.
Bien, d'ailleurs, Stéphanie, c'est le marathon Oasis bientôt, là, dans 2 week-ends à peu près. Oui. Ce serait quoi vos recommandations pour les gens qui feront ce marathon?
Pour les gens qui vont faire le marathon, donc le 42, trois jours avant l'événement, il faut s'assurer que notre alimentation est riche en aliments qui fournissent des glucides. Donc, le pain, les pâtes, le riz, les céréales. Donc, ça, c'est important. Mais c'est important aussi de très, très bien s'hydrater parce que le matin de la course, il faut que l'hydratation soit optimale. Ça influence beaucoup les performances. Donc, il faut boire fréquemment pendant la journée. Le matin de la course, on boit au moins 500 millilitres d'eau deux heures avant la course. Comme ça, on maximise l'hydratation, mais on s'assure d'avoir le temps aussi d'éliminer. Donc, de cette façon-là, avec l'alimentation riche en glucides, trois jours avant, puis une bonne hydratation, bien, on renfloue, on maximise toutes les réserves d'énergie qui sont dans les muscles et bien, au moins, on arrive avec ça de notre côté le matin de la course.
Mm-hmm. Parce qu'on a parlé bouffe beaucoup depuis le départ, mais l'hydratation, c'est hyper important. L'eau, ça permet de meilleures performances aussi.
Oui, parce que l'eau, c'est la composante principale du sang, entre autres, et mm-hmm. le sang transporte aux muscles et à toutes les cellules les nutriments et l'oxygène aussi. Donc, c'est important que cette circulation-là soit fluide, qu'elle se fasse très bien, et donc, ça prend de l'eau pour ça. Puis l'eau est importante aussi pour la transpiration. Ça, c'est une autre chose cruciale quand on parle d'entraînement, parce que sans une transpiration efficace, notre corps pourrait surchauffer et avec ça entraînerait énormément de problèmes. Donc, l'hydratation, elle est importante. Quand on s'entraîne, surtout l'été, ces temps-ci, il fait très chaud, c'est important d'y voir, parce que non seulement ça diminue la performance si on ne s'hydrate pas bien, mais en plus, ça peut amener des faiblesses, un coup de chaleur, et ça, bien, on veut éviter ça à
bien
tout
sûr.
Prix.
Mm-hmm. Est-ce que les électrolytes ont un rôle important dans l'entraînement également?
Ils ont un rôle très important, mais selon l'intensité ou la durée, c'est surtout la durée en fait qui influence nos besoins en électrolytes. Tous les sportifs n'ont pas besoin de prendre des suppléments d'électrolytes ou d'y penser. Les électrolytes, c'est entre autres le sodium, le potassium, qu'on retrouve pas en très grande quantité, mais fréquemment dans plusieurs aliments. Du sel, on en retrouve quand même assez facilement dans l'alimentation. Et les gens qui en ont le plus de besoin, c'est par exemple les gens qui vont faire des événements de plusieurs heures, les ultramarathoniens, les gens qui vont partir en vélo des heures et des heures. Donc ça, ce sont des événements qui peut-être vont nécessiter un supplément d'électrolytes pendant l'activité pour être sûr que ce qui est perdu dans la sueur, parce que le sel, on en perd la sueur, mais que ce soit remplacé, parce que les électrolytes servent entre autres aux contractions des muscles, aux contractions du cœur aussi. Donc, on comprend que c'est pas mal la base lors d'un effort physique.
Oui.
Donc, il y a des suppléments comme ça qui existent qui peuvent convenir à certaines personnes, mais vraiment, c'est pas la majorité des athlètes qui vont avoir ce besoin-là.
Mais j'imagine qu'il faut surveiller notre provenance d'électrolytes parce que certaines boissons sont peut-être plus sucrées qu'il ne le faudrait.
En fait, les boissons pour sportifs comme les Gatorade, Powerade de ce monde, où on peut faire la même chose avec du jus dilué à la maison, qu'on met une petite pincée de sel dedans, l'important, c'est d'avoir le bon dosage de sucre. Parce que quand c'est trop sucré, ça reste dans l'estomac plus longtemps, ça fournit pas aussi efficacement les sucres à nos muscles. Et bien, surtout, ça donne soif aussi quand c'est trop sucré. Donc, ça prend vraiment des boissons qui sont bien dosées en sucre, avec une petite pincée de sel. Et ça, quand on fait une boisson maison, le jus dilué moitié-moitié avec de l'eau, on met soi-même une petite pincée de sel. Le sel va combler les pertes là, qu'on va avoir pendant la sueur. On n'a pas besoin d'extra là, suite à ça.
Mais voilà, et on peut le faire à la maison directement.
Mm-hmm, voilà.
Il y a aussi des préventions du côté d'un autre type de liquide, Stéphanie, dans votre bouquin, la petite bière après l'entraînement. En tout cas, du moins, vous avez une note sur l'alcool qui n'est peut-être pas aussi bon qu'on pourrait le penser.
Non, c'est bon, c'est rafraîchissant et c'est bien plaisant, la bière après le sport, mais c'est à peu près les seuls bienfaits que ça a. Ça nuit à la mise en réserve de l'énergie, ça nuit à la récupération, ça nuit à l'hydratation, ça nuit à la concentration, ça nuit aux réflexes également. Donc, bref, l'alcool, c'est sûr que ce n'est pas bon en termes de performance sportive, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, on ne perd surtout pas de vue la notion de plaisir. Oui. On fait du sport pour le plaisir et on mange pour le plaisir. Donc, si une petite bière, une fois de temps en temps, ça en fait partie, bien, on peut y aller, évidemment, mais en toute connaissance de cause, au moins en sachant ce qu'il y en est.
Et si c'est une source de motivation pour aller s'entraîner, ben pourquoi pas en plus, hein?
Pourquoi
une fois de temps
pas,
en temps.
Surtout, ça vient souvent avec un côté social à certaines activités, donc ce côté-là social en soi en est une belle motivation.
En terminant, Stéphanie, je veux aller dans mythes et réalités un petit peu. Entre autres choses, les suppléments alimentaires, est-ce nécessaire pour tous les sportifs?
Absolument pas. En fait, pour la plupart des sportifs, ce ne sera pas nécessaire de prendre des suppléments parce qu'on peut retrouver, par exemple, toutes les protéines dont on a besoin dans les aliments. Dans le livre, entre autres, on parle de la caféine, on parle du jus de betterave qui sont très à la mode chez les sportifs par les temps qui courent. On explique que ça peut aider à certaines performances, mais il faut vraiment être rendu un peu plus dans la performance pour que ça fasse une petite différence parce que on parle vraiment de gagner peut-être des secondes ou de gagner une meilleure sensation sur un effort, mais vraiment c'est pas applicable à tout le monde. Mais cela dit, ça ne fait pas de mal non plus de prendre un jus de betterave avant d'aller s'entraîner, mais la caféine, par contre, il faut quand même savoir de quelle façon on tolère la caféine avant d'en prendre avant un entraînement, parce que si on a des palpitations ensuite, bon, on ne sera pas gagnant.
Ben, comme on le disait tantôt, il faut apprendre à se connaître en tant que sportif. Et puis, ça demeure, il n'y a pas d'aliment miracle ou de breuvage miracle. Ça reste la constance, la persévérance, le plaisir. Là, je ne peux pas m'empêcher, vraiment en terminant, de vous poser une dernière question, mythe ou réalité. Pour empêcher les crampes, la banane, est-ce que c'est vraiment bon, Stéphanie Côté?
Non. En fait, les crampes sont un peu mal connues. Il y a plusieurs causes aux crampes. On ne connaît pas très bien la façon de les prévenir ou de les soigner. Mais en fait, si on fait allusion à la banane, c'est probablement à cause du potassium, du magnésium, donc de certains sels minéraux qu'il y a à l'intérieur. On pense qu'il y a un lien avec les sels minéraux, mais il n'y a pas d'aliment en soi qui va faire des miracles de ce côté-là.
Mais non. Mais quand même, une banane, c'est toujours bon. Et puis avant l'entraînement, j'imagine que c'est pas nuisible.
Non, absolument pas. C'est une très bonne idée même.
Stéphanie Côté, je rappelle votre site stéphaniecôté.ca. Vous êtes nutritionniste du côté d'Extenso. Vous venez de publier ce livre chez Modus Vivendi avec votre collègue Philippe Grand, qui, d'ailleurs, on le salue parce que les recettes, je pense que c'est lui qui les a pensées, concoctées pour le bouquin, puis ils ont l'air vraiment savoureuses, donc on le salue.
Oui, c'est un beau travail d'équipe et je vais passer le message à Philippe.
Certainement. Donc, nutrition sportive, 21 jours de menu. Bye-bye, Stéphanie, au plaisir.
Au plaisir, Marianne.
Et puis, bonne course, là.
Oui, merci.
Au revoir. Mathieu Tessier à la mise en onde, Marianne Paquette au micro. Merci d'avoir été là pour la première de C'est bon pour la santé, première et non pas dernière, parce que ben nous, on est là tous les jours de la semaine, 14h en direct. Donc, on est là, Christiane Campagna et moi, pour vous préparer de belles émissions encore. Je vous rappelle, on est disponible au canalm.vusevoix.com pour nous réécouter en balado-diffusion. Sans rendez-vous dès demain. D'ici là, portez-vous bien. Bye-bye.